Salut, bienvenue sur Radio Chad. On est le. À quel jour on est? On est le jeudi 28 mars 2024. Et ce soir, on va parler cacao. Alors, on n'est que deux. Ah, on est trois, ça y est. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, oui, ce soir, il s'est passé un truc récemment qui est historique, en fait. Genre, on n'a jamais vu ça avant. C'est une hausse du prix du cacao qui a fait x3, genre même plus que x3 en très peu de temps. J'ai regardé un peu la courbe depuis les 50 dernières années, depuis les années 60, et c'est jamais arrivé que ce soit aussi haut. Donc voilà, ça implique beaucoup de choses, et donc on va parler de ça ce soir. On va parler de savoir qu'est-ce que ça implique. Bon, déjà, éventuellement, les causes qui sont multiples, qui sont à la fois fondamentales et techniques. Mais aussi les conséquences. Mais encore avant ça, on va parler aussi en fait du marché du cacao, en fait, où c'est produit, qui consomme, par où ça passe, etc. Donc on va essayer de démêler tout ça parce que c'est vrai qu'on connaît assez peu en fait le circuit de ce produit qu'on consomme absolument tous les jours partout dans le monde. Donc voilà, c'est un sujet super intéressant. Et donc bienvenue, bienvenue, et puis bienvenue à toi, Vincent. Ça va?
Ça va et toi?
Ben, ça va super. Donc ouais, j'ai eu un petit coup de flip ce matin, je
Ouais,
t'avouerai.
ça m'a fait rire d'ailleurs.
Bah, moi après oui, mais j'ai rien compris, je te jure, je me suis réveillé, je me suis dit, oh
Oh putain, c'est dans 2 minutes.
shit. Ouais, c'est ça. Donc j'étais un peu paniqué, mais en fait non. Après j'étais content. Donc ouais, alors le cacao, j'ai essayé de me renseigner un petit peu pour voir un petit peu comment aborder le sujet. Alors avant qu'on aborde la crise qui a lieu en ce moment, je pense que c'est pas mal si on peut, en fait, faire un petit portrait du cacao, voir un peu où il se produit, comment il est traité, etc. Parce que bon, moi, c'est un petit peu en désordre. J'ai lu un petit peu de choses à gauche, à droite. Et par exemple, il y a un truc qui m'a surpris pour prendre le truc au milieu, tu vois. Il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que bon, alors déjà le cacao est produit principalement en Afrique de l'Ouest, mais il est process, si j'ai bien compris, en grande partie en Indonésie. Est-ce que c'est
Oui,
possible là?
ouais, c'est ça. Bah, en fait, en termes de consommation mondiale, on est à 5 millions de tonnes par an. En moyenne, ça varie entre 5 et 5,5. Et effectivement, les trois plus gros producteurs mondiaux, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire, en fait, à eux deux seuls, ces deux pays-là, c'est 70% de la production mondiale. Et quand tu rajoutes le Cameroun et le Nigeria, ça fait 75% de la production mondiale. Donc, en fait, tu as quatre pays qui représente près de 60, bah ça, qui représente 75% de la production mondiale de cacao, et qui, du coup, en termes de quantité, c'est 3,5 millions de tonnes sur 5 millions de tonnes consommées par an. Donc après, c'est un peu dispersé en Asie. Là, justement, comme tu parlais, il y a de l'Indonésie. Il y a un peu le Vietnam également, la Thaïlande. Et en Amérique latine, c'est un peu l'Équateur et le Brésil. Mais c'est vraiment de l'ordre très minime. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des gros gros déficits d'offres dans les pays africains, d'Afrique de l'Ouest, donc Ghana, Côte d'Ivoire et Nigeria, dont on parlera justement plus en profondeur par la suite, qui font que ce qui explique vraiment d'un point de vue fondamental sur le marché physique pourquoi les prix aujourd'hui atteignent un plus haut historique dans l'histoire du cacao, quoi.
Ok, ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on va arriver là-dessus à un moment donné. Mais il y a un truc qui est vraiment marrant, c'est quand tu étudies l'histoire du cacao. À la base, le cacao c'était produit en Amérique du Sud pendant très longtemps. Et le switch vers l'Afrique, il s'est opéré, j'ai envie de dire récemment, mais c'est pas si récent que ça. C'était il y a, ça dépend à quel point on est vieux. Ça fait genre 150 ans, 200 ans, je sais pas exactement. Je crois que c'est le 19e siècle, où en fait, c'est les colons européens, où il y avait un petit problème au niveau de la production en Amérique du Sud, avec les plantes qui mouraient facilement,
Exact.
etc. Et puis il y avait aussi de la main-d'œuvre qui devenait de moins en moins bon marché, parce qu'il y a eu aussi l'esclavage qui arrivait progressivement à sa fin. Et donc, les colons européens se sont dit, bon, ben, il faut qu'on trouve un autre endroit. Donc, ils se sont emparés de l'Afrique. Ils ont mis des variétés de plantes qui étaient beaucoup plus résistantes, beaucoup plus productives qu'avant. Ils avaient de la main-d'œuvre vraiment pas chère et ça a fait le boom, ça fait un boom en termes de production de cacao. Après, j'ai pas plus de connaissances que ça en termes de qu'est-ce qui s'est passé après, mais apparemment c'est un peu ça le début de pourquoi en fait la production de cacao a commencé à se concentrer en Afrique.
Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, si tu veux, en fait, c'est justement concentré en Afrique vers ces années-là. Et en fait, bah, en fait, au fur et à mesure, pour l'Afrique, c'était un vrai marché d'exportation, notamment vers les pays européens et également les États-Unis. L'Asie n'était pas encore très consommatrice de chocolat, de café, enfin, toutes les variantes en fait, qu'on peut faire avec le cacao, etc. Et donc là, ça a permis de développer notamment ces économies-là, d'où le fait qu'aujourd'hui, bah, quand même, le Ghana, le Cameroun et même la Côte d'Ivoire sont parmi les économies les plus développées. En Afrique de l'Ouest, pas à cause du cacao, mais c'est quand même un facteur majeur parce que bah, ils concentrent du coup aujourd'hui, c'est une sorte de mini cartel du cacao. Et en fait, ce qui s'est malheureusement passé, c'est que en fait, la grosse vague de plantation d'arbres, je sais plus qu'on appelle d'arbres les arbres qui font du cacao, je vais pas dire de bêtises. En fait, ça a eu lieu au début des années 2000, donc c'est vraiment là qu'il y a une grosse vague de plantation d'arbres pour la production de cacao pour bah, les années à suivre. Et en fait, depuis les années 2000, donc ces arbres aujourd'hui qui ont été plantés, les années 2000 ont presque quoi, 24-25 ans, il n'y a pas eu de nouvelles plantations, en fait, depuis là. Et ça, c'est vraiment alors un facteur très politique pour le coup. C'est vraiment le gouvernement, parce que bah, là-bas, c'est le gouvernement qui a la mainmise quasiment sur les entreprises, notamment productrices de matières premières. C'est vraiment des outils d'État. Et n'a pas du tout favorisé, en fait, les investissements aussi bien nationaux, mais également les investissements d'entreprises étrangères dans les infrastructures, donc dans la plantation, dans les produits chimiques, dans le transport, dans le stockage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bah, au fur et à mesure des années, l'élevage s'est dégradé progressivement, parce que du coup, peu d'utilisation d'engrais, peu d'utilisation de pesticides, et du coup, ce qui a engendré que bah, les cacao, enfin oui, ça, c'était cacaoyer, pardon, sont devenus très vieux, donc bah, des rendements plus faibles, et t'as également bah, du coup des plantes, des arbres qui sont bah, de plus en plus vulnérables bah, à des aléas climatiques et à des maladies. Et en fait, depuis 2022, t'as les facteurs de aléas climatiques avec El Niño qui est apparu en 2022 et oui, en 2022 et bah, du coup en 2023 également, avec El Niño qui du coup c'est un aléa climatique les océans Pacifiques qui font fortement augmenter les températures des eaux. Mais du coup également des terres. Et en fait, allié à des fortes intempéries dans le pays, ça a généré des maladies dans les arbres. J'ai plus exactement le nom de la maladie, mais du coup, en fait, ça a infecté totalement les produits. Ça a créé des noircissements et de la pourriture des cabosses de cacao, ce qui du coup bah, engendre de la destruction de récolte. Ça fait aussi baisser du coup la qualité de la récolte qui a pu être sauvé, mais du coup, bah, on est en termes de quantité qualité beaucoup moindre. Et en fait, il y a une vraie propagation du virus en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans ces différents pays-là. Du coup, ça attire les bêtes, ça attire la moisissure derrière. Enfin, ça tue totalement les rendements de cacao. Et en fait, c'est ça qui est en fait a commencé à créer un déficit d'offres dans ces pays-là en termes de production. Alors que derrière, t'as la consommation qui est toujours aussi solide, comme j'avais dit, de près de 5 millions de tonnes par an. Donc là, t'as l'Europe, qui est la plus grosse consommatrice de chocolat dans le monde, derrière les États-Unis, et ensuite t'as l'Asie, notamment la Chine, l'Inde, bien évidemment le Vietnam, la Thaïlande, et comme on dit, l'Indonésie. Et en fait, sauf que en fait, ces maladies, ces intempéries-là sont arrivées à un moment où il y avait déjà un déficit au niveau des stocks mondiaux, qui était près de 216 000 tonnes en 2021-2022, près de 100 000 tonnes en 2022-2023. Et là, pour cette année, on annonce un déficit des stocks de près de 400 000 tonnes, en fait. Donc, en fait, tu as eu une grosse baisse de la production de l'offre et allié, en fait, à une énorme, à un déficit au niveau des stocks qui est en train de se creuser, allié à un manque chronique, en fait, d'investissement dans, justement, les infrastructures dans le pays. Et en fait, du coup, tu as une offre qui est en fait complètement s'effondrer dans un peu ce mini cartel de la production de cacao. Et derrière, bah, tu as une consommation qui en fait, qui n'a pas du tout chuté, malgré voilà, ce qu'on peut parler d'inflation, etc. En fait, voilà, le chocolat, tout ce que tu veux, c'est comme un peu les fast-food, tu vois. Malgré la hausse des prix, les gens ne le voient pas. C'est des produits de consommation basique. Et cela n'a pas du tout freiné, en fait, du coup, la consommation à l'échelle mondiale. Et en fait, du coup, d'un point de vue fondamental, tu as de plus en plus d'acteurs qui sont venus sur les marchés financiers et qui ont en fait poussé le prix à la hausse qu'on voit aujourd'hui, quoi.
Ouais. Alors ça, on va revenir dessus, mais j'aimerais revenir rapidement sur ce que tu disais sur la mainmise des États sur la production de cacao en Afrique de l'Ouest. Est-ce que parce qu'il y a déjà avant la crise et tout ça, avant El Niño machin, il y avait déjà comme enfin, tu avais l'air de dire qu'il y avait déjà un manque, un manque de volonté, si tu veux, de développer les économies ou en tout cas la production. Alors qu'il y avait un besoin, il y a une croissance, il y a une croissance qui augmente chaque année pour une demande pardon qui augmente chaque année pour la production pour la consommation de cacao. Pourquoi ils n'ont pas voulu développer en fait la production de cacao? Est-ce que tu penses que c'est parce que éventuellement ils se disent bon bah de toute façon on a un genre de monopole donc en fait si on fait pas d'efforts bah ça fait monter les prix tout simplement et on va se faire juste plus d'argent tu vois c'est un peu ça j'imagine l'idée non ou alors il y a autre chose.
Pas entièrement, tu as déjà l'effet, bah, malheureusement, c'est des pays quand même qui connaissent une partie de la corruption, donc en fait beaucoup des recettes du pays en fait n'étaient tout simplement pas réinvesties dans le pays d'un point de vue d'outils productifs, d'appareils productifs de l'État. Il y a cet effet de corruption, du coup bah, tu as beaucoup moins de capitaux naturellement bah, qui vont même pas dans le pays tout simplement, donc forcément ils vont pas aller vers la production de cacao qui vont du coup dans les poches un peu voilà, des gens du gouvernement. Tu as l'effet effectivement bah, des conflits. Que ce soit des conflits ethniques, des conflits également liés au terrorisme, ou par exemple, tu as des groupes terroristes des fois qui viennent en fait dans ces pays-là, bah, qui vont menacer directement les producteurs de cacao. Voilà, je t'assure ta sécurité. En contrepartie, bah, tu me donnes une partie de ta production. Et donc là, en fait, tu as eu le développement dans ces pays-là d'un marché noir du cacao. Donc, que ce soit voilà, des groupes terroristes ou même des milices privées de différents pays qui, bah, là, savaient, comme tu le dis. Effectivement, savaient l'effet de levier qu'ils avaient parce qu'ils contrôlaient quasiment bah, trois quarts de la production mondiale de cacao et du coup bah, voulaient bénéficier de ce monopole-là parce qu'il faut savoir que les prix qui sont sur les marchés financiers, aujourd'hui, les producteurs de cacao, ceux qui font la récolte, ne bénéficient pas en fait parce qu'il y a des prix réglementés dans ces pays-là. Donc en fait, aujourd'hui, le producteur de cacao, il bénéficie pas du tout des 10 000 dollars la tonne actuellement. Donc, d'où le fait que du développement de ce marché noir. Lorsque le gouvernement a installé ses prix réglementés dans le pays. Donc, marché noir, corruption. Il y avait aussi, bah, en fait, c'est un pays qui est vachement sujet aux aléas climatiques. Je parle de l'Afrique de l'Ouest de manière globale. Et qu'en fait, du coup, ça donnait moins l'initiative au gouvernement d'investir, enfin, les gouvernements ou d'attirer des entreprises étrangères. Parce que bah, ils se disaient, bon, bah, de toute façon, on va investir tant d'argent. On a un risque d'aléa climatique qui bousille en fait la production ou qui l'affaiblisse. Donc, pareillement, l'État était moins enclin à investir dans la production de cacao. Donc, voilà, tu vois, c'est une alliance de corruption dans le pays, de développement du marché noir par, bah, on va dire, c'est ça, l'arrivée du terrorisme, les milices privées, etc. Bah, malheureusement, c'est des pays qui sont sujets aux aléas climatiques. Du coup, ça donne moins même envie aux entreprises étrangères de venir dans le pays et développer cette filière-là. Et donc, en fait, au fur et à mesure des années, c'est vraiment toute une filière qui a subi en fait un vrai sous-investissement chronique dans le pays.
Ok, d'accord. Et du coup, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un marché aussi important, parce que genre littéralement le monde entier consomme du cacao, je veux dire, comment un marché aussi important, il peut être concentré, il peut être aussi centralisé. En fait, c'est là que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres, je sais pas, d'autres endroits, d'autres personnes qui se sont dit à d'autres endroits, venez, on produit du cacao à cet endroit-là. Pourquoi en Asie, il n'y a pas un marché du cacao? Pourquoi c'est là que ça se passe et pas autre part, quoi?
Bah, pourquoi déjà, comme tu dis, bah, déjà il y a le fait que bah, tous les pays ne possèdent pas les ressources naturelles pour produire du cacao. Effectivement, comme j'avais dit, il y a un peu le Brésil et l'Équateur, mais en fait, pendant longtemps, le cacao, c'est un produit sur les marchés financiers. En fait, quand on regarde tout simplement la courbe, hein, depuis les années 60, bon, c'est pas là où tu pouvais te faire le plus d'argent. Donc, les pays, par exemple, qui dépendent fortement de leurs ressources naturelles pour se développer, c'était beaucoup mieux de privilégier le pétrole et le gaz. Ou bah là, c'était en termes de profit enclenché par les exportations pour ensuite réinvestir dans le pays, c'était beaucoup plus intéressant de développer la filière hydrocarbures. Je parle le charbon pareil. Aujourd'hui, tu prends le charbon, bah non, en Vietnam, en Thaïlande, en Chine, en Inde, tu prends le mix énergétique, c'est 80% de charbon minimum. Il y a un énorme marché à ce niveau-là. Donc, t'as simplement déjà le coût d'opportunité d'investir ou pas dans le cacao par rapport aux tendances de marché. Le cacao, bon, bah, en fait, malgré la consommation mondiale énorme qu'il y a eu au fil des années, vraiment, tu prends le graphique depuis les années 60 jusqu'à les années 2010-2015, il a varié entre 650 $2 500 la tonne pendant 50 ans. Bon, pour un
Ouais.
gouvernement, bon, tu vois, c'est je produis, mais j'en tire pas grand-chose. Donc, déjà, ce coût d'opportunité, deux, il y a des pays qui n'ont pas de cacao à produire, donc ils vont pas après développer, ils vont pas ramener, il faut ramener des entreprises étrangères, investir des capitaux, développer de la main-d'œuvre, développer le transport, développer le stockage, l'entretien, enfin c'est beaucoup de capitaux quand on est au niveau zéro, pareillement, c'est pas intéressant. Donc c'est le deuxième point. Et troisième point, c'était opportun en fait d'avoir un peu ces pays justement où on se disait on peut avoir de l'emprise facile plus ou moins facilement dessus pour les comme tu parlais justement pour l'esclavage des colons etc. À cette époque-là on se disait bon en cas justement de potentiel embargo blocus de ces pays-là nous on est mieux armés, on est plus développés économiquement, on est plus industrialisés, on peut en fait aller à la source de ces pays-là. Là, je cite un peu certains historiens qui disent qui expliquaient un peu cette logique-là en fait de dire bon c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, là, c'est des petits pays qui étaient des anciennes colonies pour nous. S'il vaut, nous, on va chercher nos produits directement dans le pays.
Ouais.
Donc, tu as vraiment ces points de coût d'opportunité, le fait qu'il n'y ait pas les ressources, le fait qu'on peut avoir l'avantage sur ces pays-là, qu'en fait, tu vois, eux, c'est le cacao, d'autres pays, ça va être le cuivre, d'autres pays, ça va être le lithium, pétrole, enfin, chacun va avoir ses forces au niveau de ressources naturelles, parce que, par exemple, pourquoi l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est le pétrole? Parce qu'ils ont des ressources pétrolières. Tout simplement, ils n'ont pas cherché à abracadabra. Mais par exemple, effectivement, si le pétrole n'avait pas connu l'expansion en termes de consommation et de prix, etc., qu'il a connu, peut-être que l'Arabie Saoudite aurait été un producteur, je sais pas, de métaux, ou peut-être n'aurait pas du tout été un producteur. Donc, les pays, ils ont pris vraiment là où il y avait le coût d'opportunité, ils en ont profité directement. Comme aujourd'hui, pour faire rapidement un parallèle, les pays producteurs de cuivre, de bauxite, de lithium, de cobalt, ils usent de cet effet de levier parce que les sujets de transition énergétique, de numérisation de l'économie, etc., ils savent qu'on va avoir beaucoup de besoin de métaux. Bon, on produit du cuivre. Ça s'arrête à là, tu vois.
Ouais, ok, je vois. Alors du coup, alors puisque là on parle des produits producteurs, mais apparemment c'est ça. Moi j'ai été vraiment étonné quand, parce que c'est vraiment difficile de dire, tu sais, comment ils fabriquaient le cacao. Je sais que déjà c'est un procédé un peu plus complexe que ce que je pensais. J'avais vu une fois un documentaire où en fait ils expliquaient comment ça passait de en fait, je sais pas comment on appelle ça, de la fève ou de la graine, et
Oui, c'est
ensuite
de la fève, ça
ça
vient de
devient,
la fève, c'est de la fève.
ouais. Et ensuite, ça devient du chocolat qu'on peut manger. En fait, le process, il est super complexe. Tu te dis, mais genre, la première personne qui a mangé du chocolat dans la vie, comment il a fait pour trouver le chemin, comment il a fait le truc? C'est que des hasards successifs où ça a fermenté. Il a fait, oh, fait chier, ça a fermenté, je vais le cuire pour voir. Tout d'un coup, il fait, oh, mais c'est pas mal, en fait. Non, mais même pas, en fait, parce que c'est super amer et tout. Bon, bref, en tout cas. Donc, en gros, c'est super complexe comme truc à fabriquer. Et du coup, tout ne se fait pas sur place. Éventuellement, ça voyage. Et ça voyage. J'ai vu qu'apparemment, l'Indonésie, c'était un gros. En fait, eux, ils processent le cacao. Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'ils font, où ils sont dans la chaîne. Mais justement, eux, l'histoire de l'Indonésie, si j'ai bien compris, ils voulaient. Je crois qu'ils produisaient du cacao avec des nouvelles espèces qui était censé être encore plus produit, qui enfin, encore plus efficiente au niveau de la production, etc., qui étaient des genres de trucs, c'était pas vraiment du modifié génétiquement, mais quasiment une espèce de nouvelle, un nouveau truc. Et en gros, ça n'a pas fonctionné du tout. C'était encore pire, il y a eu plein de maladies, c'était horrible. Donc, du coup, ils ont dû importer le cacao depuis l'Afrique de l'Ouest, quoi.
Ouais, bah c'est
Alors,
exact, bah, c'est pour le coup,
ouais.
c'est comme ça. En fait, l'Afrique de l'Ouest, c'est production et fermentation. Donc, ça va être voilà, les fèves de cacao vont être extraites des cabosses, donc des cabosses de cacao. Et donc, en fait, du coup, bah, c'est la fermentation dans les usines qui vont développer justement bah, en fait, toutes les saveurs. En fait, c'est le principe de la fermentation. Et en fait, du coup, après, tu as l'effet de torréfaction. Donc, là, c'est le truc où ils sont genre, c'est séché à une haute température. Et du coup, enfin, c'est la torréfaction qui permet de donner justement la couleur brune qu'on connaît en fait au chocolat qu'on mange. Et après, les pays comme l'Indonésie, la Nouvelle-Calédonie, le Vietnam ou la Thaïlande, qui eux, par exemple, le Vietnam et la Thaïlande, c'est les plus grands producteurs du café dans le monde. Donc forcément, ils utilisent du cacao. Et eux, ça va être plus le côté broyage, en fait, et ce qu'on appelle jonchage du cacao, en fait, qui va permettre justement de développer le côté liquide. Donc la pâte fine, déjà pour le chocolat, mais aussi le liquide pour tout ce qui est bah, justement, bah, par exemple, le thé, le chocolat chaud, ou le café. Et après, ça se départage plutôt comme ça. C'est vraiment récolte, fermentation, torréfaction dans les pays d'Afrique de l'Ouest, broyage, jonchage dans les pays comme que je viens de citer là. Et après, bah, t'as tout... après c'est plus vraiment c'est plus le côté industriel, tout ce qui est mélange, emballage, moulage, ça se fait partout dans le monde. Ça, c'est les pays qui importent. En Europe, là où on importe, bah, c'est les industriels, par exemple en Allemagne, Royaume-Uni comme Mondelez ou Nestlé qui vont faire justement la partie, bah voilà, on fait l'emballage, on fait le moulage, on gère les températures, etc. Et ensuite, c'est vendu dans la consommation réelle, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, alors du coup, on peut faire un petit saut parce que moi, je voulais avant ça, je voulais commencer à parler de la crise, mais on peut aborder ce truc-là avant rapidement. En gros, c'est ce qui est fou en fait dans cette sorte, c'est que la plupart du chocolat qui est consommé, finalement, c'est des entreprises qui font. En fait, ils font des chocolats de merde, tu vois. Genre, c'est des trucs où il y a peut-être maximum 30% de cacao dans, par exemple, des bars au chocolat, tu vois. Des trucs comme Snickers, machin, ou enfin toutes sortes de produits. Et en fait, il y a genre très peu de cacao dedans, et majoritairement du sucre et d'autres trucs. Et en gros, c'est ces compagnies-là qui sont énormément impactées par la hausse du prix. Et donc, ils commencent à réfléchir à diminuer encore la dose de cacao dans leurs produits. Et il y a de plus en plus de compagnies déjà qui sont déjà sur le filon, tu sais, genre du cacao, enfin du chocolat sans cacao ou des trucs alternatifs et tout, qui se
Ouais.
disent bon bah on va y aller à fond parce que ça commence à être hors de prix en fait.
Ah bah oui, là c'est clairement c'est les premiers touchés parce que du coup bah, c'est eux qui achètent le cacao sur le marché. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est un peu le. Bah, déjà qu'ils ont subi beaucoup d'inflation par rapport au coût des matières premières de 2022, 2023, comme on peut le voir. Et aujourd'hui, comme tu dis, là c'est le but, c'est que ce soit dans les bonbons. Les petits chocolats, les barres chocolat, barres chocolatées, les friandises, etc. Le but, c'est de justement consommer beaucoup moins, bah, beaucoup moins de chocolat. Juste, il y avait Hershey's, c'est une entreprise, je crois, allemande, qui avait annoncé des produits de Pâques avec. En fait, c'est des pains, enfin, les lapins de chocolat, mais du coup, c'est avec du caramel, des Kit Kat au citron, des Haribo avec des goûts différents, enfin. T'as eu la même chose, ouais, c'est ça, c'est j'ai plus mon entreprise en Angleterre, mais en fait, du coup, c'est en fait, on diversifie les produits donc avec du coup bah, d'autres saveurs autres que du chocolat. Que même si de base, c'est pas le lapin au chocolat qui est super connu, on va mettre du caramel, voilà, des Kit Kat, ces chocolats, bah, on va mettre du citron ou d'autres goûts, des Haribo, des barres chocolatées, enfin, tout ça maintenant. C'est bah on les remplace par d'autres goûts parce que tout simplement c'est trop trop cher d'acheter du chocolat aujourd'hui sur le marché.
Ouais. Mais honnêtement, c'est pas si grave dans le sens où tous ces chocolats de merde, c'est du chocolat de merde. C'est pas du chocolat en vrai. C'est juste un tout petit peu de chocolat et énormément de sucre. Donc c'est même pas du. Tu vois, c'est vraiment. On peut pas appeler ça du chocolat. Hein. On peut appeler ça du chocolat à partir de 75 14%, genre, tu vois. En dessous, moi, j'aime beaucoup ça. Je suis un gros, gros fan de chocolat. Et j'ai des petites marques, mais justement, les marques que j'achète quand je veux vraiment me faire plaisir et que je veux manger du vrai chocolat, du bon chocolat, le chocolat vient d'Amérique du Sud. Voilà, alors c'est très cher par contre, c'est genre la tablette de 80 grammes c'est 10$, mais c'est bon, c'est très bon, c'est incroyable, c'est un goût, en fait t'as un goût, t'as des notes de, je sais, de vanille, de fruits rouges, etc. Alors qu'il n'y a pas de vanille, il n'y a pas de fruits rouges. C'est genre, ça vient de, je sais pas comment ils font. Ça vient peut-être des terres où le cacao est cultivé, etc. Donc je me dis que la question que je me pose, c'est genre, est-ce que ces trucs-là vont tripler de prix dans le futur? Moi, ça me fait un peu flipper. Je sais pas si c'est une possibilité.
De quoi qui va tripler de prix?
Bah, genre les produits qui sont en fait faits principalement avec du chocolat, en fait, avec du cacao, quoi. Le vrai chocolat, est-ce que tu vois, parce que pour ce qui est des barres chocolatées, ils vont trouver des alternatives et peut-être le prix va pas trop, ça va pas trop impacter le prix. Ils vont juste mettre moins de cacao, mais pour les produits, les vrais produits, le vrai chocolat en fait, hein, ce qui est fait principalement de cacao, est-ce que tu penses que on va voir des, ça va être impacté, est-ce qu'on va voir des doublements, des triplements de prix de ces produits-là?
Alors, je ne vais pas m'avancer sur le niveau de hausse des prix, mais ce qui est aujourd'hui le cas, ce qui va se faire, c'est que bah, ça, c'est ce que font tous les industriels, hein, c'est qu'ils vont répercuter le coût de la hausse de leur coût d'achat sur les coûts de consommation pour nous. Ça, c'est un simple moyen pour eux de conserver leur marge. Donc, ça, c'est. Et donc, ils voient que ça marche, hein. Bah, par exemple, en 2023, les ventes de confiserie aux États-Unis, en termes de chiffres en dollars, c'était 50 milliards de dollars, je m'en souviens. Et dans les 50 milliards, les ventes de chocolat seules, c'était 26 milliards. Donc en fait, c'était déjà 2023. Et déjà à ce moment-là, les industriels commençaient à répercuter les prix de la hausse du cacao, parce que la hausse du cacao, elle avait commencé déjà fin 2021. Donc depuis 2022, ça a commencé. Enfin bref, ça s'est pas arrêté. Et les gens continuent à consommer. Comme je disais justement au tout début de l'émission, c'est un produit qui, certes, pourrait augmenter les prix si ça continue comme ça, que le choc d'offres continue et que le broyage par les industriels ne baisse pas. Et donc, en fait, on a une demande en fait, qui se maintient, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour que les prix baissent du cacao et que du coup, bah, les prix se calment sur les ventes de la consommation, c'est qu'il y a une vraie destruction de la demande, ce qui est actuellement pas le cas aujourd'hui. C'est qu'il y a effectivement, en termes de broyage, donc le broyage, comme j'avais dit avant, c'est ce qui permet de faire le cacao en pâte fine ou en liquide. Il y a une petite baisse de 9% en Asie, de 8% aux États-Unis et en Europe, qui est quand même le plus grand consommateur de chocolat dans le monde, ça reste toujours aussi solide. Alors en plus, il n'y a pas qui arrive, on est parti pour de la consommation intense. Mais aujourd'hui, on voit que malgré un début de hausse des prix sur les produits, bah, c'est du chocolat, quoi. Les gens adorent le chocolat, ça se mange. Et c'est pas un produit comme d'autres types de produits. On va faire attention au prix là. C'est la confiserie qu'on aime, c'est les barres chocolatées qu'on aime, c'est les bonbons qu'on aime, c'est le lapin au chocolat qu'on aime. Donc les gens ne font pas vraiment attention. Donc la hausse des prix, oui, si ça continue comme ça, après de combien, je ne saurais dire.
Ouais. Alors, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on vienne donc qu'on fasse un petit pas en arrière et qu'on parle de la crise. En fait, pourquoi cette crise est arrivée et comment elle a fait pour se développer de cette manière-là? Parce que c'est comme je disais dans l'annonce, en fait, c'est historique. On n'a jamais vu une hausse de prix pareille sur ce marché-là.
Ah oui, c'est arrivé dans le monde.
Ouais. Alors, j'ai ah oui. Alors. J'en profite pour dire que s'il y en a qui veulent participer, qui veulent poser des questions ou ajouter leur pierre à l'édifice, n'hésitez pas. Et il y a l'Afrique par le Bitcoin qui nous a rejoint, donc Prince, qui lui, on m'a dit Jacques m'a dit qu'il connaissait un peu le sujet. Alors je lui ai proposé de passer aussi. Donc Jacques, pardon Prince, si tu veux dire quelque chose, n'hésite pas. Demande-moi le rôle de speaker. Et puis les autres aussi, tout le monde, vous êtes invités à parler. Ouais, alors c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'origine de cette crise? Moi, ce que j'ai lu, c'était qu'il y avait deux causes. Il y avait une cause fondamentale, donc un peu déjà ce que tu as commencé à décrire, qui est toutes sortes de problèmes, des maladies des plantes, etc. Tout problème en fait sur la chaîne de production du cacao. Donc avec quelque part des craintes pour le futur aussi qui ont découlé de ça. Et en plus de ça, par-dessus, tout un mécanisme technique finalement, avec des mecs qui longent, des mecs qui shortent, des shorts qui se font squeeze, etc. Et le truc qui s'envole en fait. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous faire un exposé, le mec. Vas-y, je te parle quand je parle à ChatGPT. Dis-moi tout, merci.
Non, ouais, bah, disons, justement, j'avais parlé au début justement, bah, du déficit d'offres qu'il avait commencé à avoir par rapport à El Niño qui avait provoqué des conditions météorologiques, notamment des sécheresses dans les régions et des inondations dans d'autres, en fait, qui avaient commencé à plomber en fait, les zones de récolte dans le pays. Les fortes pluies, déjà, en fait, quand il y a des fortes pluies, ça affecte déjà les problèmes de livraison du cacao au port. Donc, tu as moins de cacao qui part des récoltes au port pour l'exportation, mais également bah, les pluies. À l'alliance de fortes chaleurs, comme j'avais dit, ça avait créé une maladie, donc qui avait créé des noircissements, de la pourriture dans les capes du chaos. Enfin, tous les stocks d'entretien ont commencé à pourrir, les récoltes ont commencé à pourrir. T'as les bêtes qui sont à pourrir, qui ont commencé à manger les capes. Enfin, bref, comme tous les produits qui pourrissent, quoi, on sait ce que ça attire. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans les deux pays, donc en question, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Côte d'Ivoire. Pour la saison du coup 2022, oui c'est 2022-2023, elle avait produit près de 2,18 millions de tonnes de cacao. Là, on s'attend pour cette saison-là, 2023-2024, à une récolte de 1,75 millions, donc une baisse de 20%. Pour le Ghana, on s'attend à une baisse de la récolte de 25%, donc par rapport à l'année dernière, ce qui est déjà énorme. Comme je l'ai dit,
Ouais, c'est énorme.
le déficit de stock, lui, va s'agrandir. 216 000 déjà en 2021-2022, qui s'est rajouté 100 000 en 2022-2023, et là on s'attend qu'il se rajoute 400 000 encore de tonnes de déficit dans les stocks de cacao pour 2023-2024, et on s'attend déjà à un nouveau déficit pour 2024-2025, parce que comme je disais, ça continue vraiment, vraiment pas à s'arrêter à ce niveau-là. Donc l'offre en termes de production, El Niño, inondation au niveau des transports, maladie. Du coup, bah, ce qui accentue le déficit de stock, parce que derrière la consommation est toujours aussi solide par rapport à ça. Donc voilà, les trucs de transport, les arrivées au port. Enfin bref, tout le fondamental à ce niveau-là, on en a parlé. Et en fait, ce qui s'est passé d'un point de vue technique, c'est que, bah, comme je le disais au milieu de l'émission, le cacao, bon, ça n'a pas été un produit, notamment par les spéculateurs. Donc, quand je dis spéculateurs, c'est les hedge funds, hein, les hedge funds de commodities ou qui ont des desks commodities. C'est pas là où on a fait le plus de fric. C'est plutôt sur le blé, l'orge, le soja, le café, parce que ce sont notamment des produits d'ailleurs qui ont vécu en fait une grosse hausse de la consommation avec le développement de la Chine, le développement de l'Inde, de la Thaïlande, du Vietnam, qui ont, bah, en fait, sont les principaux consommateurs de ces produits alimentaires-là. Donc à ce niveau-là, les hedge funds, à un moment donné, c'était un peu l'âge d'or. Il fallait limite être long et pas faire grand-chose. J'extrapole, mais parce que voilà, même pour le pétrole et tout, bon bah c'était vraiment l'argent à flot quoi. Et le cacao, bah malheureusement, il s'est jamais rien passé quoi en fait depuis tout ce temps. Il n'y a jamais eu de hedge fund spécialisé sur le cacao ou des desks spécialisés sur le cacao. C'était si une opportunité, on prend, mais c'est en surface quoi. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, quand on a vu ces fondamentaux commencer à se fracasser la gueule au niveau de l'offre. Et les prix commencent à augmenter de 1 000, 3 000, 4 000, 5 000, jusqu'à 10 000 dollars la tonne. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de hedge funds qui avaient totalement délaissé ou qui n'étaient même pas intéressés, hedge funds, trading house également, à traiter sur le cacao, en fait, sont venus en masse pour bah, en fait, monter un peu dans le train. Et on estime à l'ordre de 8,7 milliards de dollars d'achats sur les contrats à terme sur le cacao à Londres et à New York seulement l'année dernière. Alors qu'avant, il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne dessus. Et d'un coup, t'as près de 9 milliards de dollars d'achats sur les contrats à terme qui sont venus sur le cacao. Et en fait, là, en 2023, les hedge funds, en termes d'exposition au risque, c'était la plus grande exposition au risque sur le cacao qui ait jamais eu lieu dans l'histoire vraiment du cacao sur les marchés financiers. Donc, c'est ce qui a fait fortement grimper les prix, et notamment l'open interest. Donc, l'open interest, c'est quoi? C'est l'ensemble des contrats ouverts. Sur les options, donc les gens qui sont longue option ou short option à un instant T. Et donc là, à ce moment, bah, vraiment, tu as un volume qui est arrivé sur les marchés, du coup, ce qui a fait fortement baisser la volatilité. Et du coup, bah, quand la volatilité baisse, ça engendre encore plus d'acteurs qui veulent rentrer sur les marchés pour profiter de la hausse des prix, ce qui a fait vraiment engranger les prix jusqu'à fin 2023. Cependant, depuis le début 2024, ce qu'on constate, c'est que justement les spéculateurs, donc les hedge funds, ont commencé à se retirer des marchés, donc retirer leur position longue sur le cacao, sur les contrats à terme sur le cacao et pareillement sur les options. C'est surtout de la prise de bénéfices parce que bon, aujourd'hui, on est au courant qu'il y a des déficits de stock, on est au courant qu'il y a des maladies, on est au courant qu'il y a El Niño, on est au courant que la production, c'est de la merde, on est au courant que les arrivées des récoltes au port, c'est de la merde, que la consommation solide. Donc ça, en termes de pricing des prix, en termes d'information dans les prix, on est au courant. Donc, de leur point de vue, c'était bon, bah, c'est un rallye, c'est énorme. Peut-être que ça va se calmer, parce qu'à un moment donné, il y a un rallye, bon, ça, on pourrait dire que ça peut aller jusqu'à haut, mais à un moment donné, il faut que les prix commencent à corriger ou à se calmer. Enfin, après, c'est un peu de la psychologie. Donc, les hedge funds ont commencé à se barrer, mais pourtant, les prix, ben, on le voit aujourd'hui, mais moi, je le pensais pour le coup, ils étaient à l'ordre quoi, de 6 000, oui, en janvier, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Pourtant, il n'y a plus de spéculateurs. Mais alors, c'est qui est là? Ben, en fait, c'est les acheteurs physiques. De base, les producteurs. Enfin, pardon, les industriels, donc les consommateurs de cacao, eux, ils sont structurellement longs sur les marchés à terme. Pourquoi? Parce que eux, de base, ils sont short physique, donc ils ont besoin de cacao justement pour le transformer et le vendre. Donc, eux, quand ils achètent du cacao, ce qu'ils craignent, c'est une hausse des prix. Donc, qu'est-ce qu'ils font sur les marchés à terme? Ils se couvrent en achetant des contrats à terme, des futurs ou des options, donc des call options. Donc, eux, de base, ils sont structurellement longs. Or, là, qu'est-ce qu'on a peur aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même plus assez de cacao pour la consommation mondiale. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces industriels-là? C'est qu'ils remballent sur les marchés financiers. C'est-à-dire que là, du coup, bah, vu qu'on a peur qu'il n'y ait carrément plus assez de cacao disponible, on va en sécuriser en masse pour les mois à venir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils achètent du coup des contrats à terme, parce que c'est grâce au futur qu'on sécurise à un prix donné, à une quantité donnée. Et à une période donnée, bah, voilà, du cacao pour d'autres matières premières. Donc en fait, depuis février-mars 2024 et bientôt avril, en fait, c'est beaucoup d'acheteurs physiques, enfin les industriels qui sont consommateurs de cacao de base, qui vont massivement sur les marchés financiers par crainte de ne plus avoir du cacao disponible parce que justement, eux en ont besoin pour leurs propres produits, donc le chocolat, les barres, etc. Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as eu les spéculateurs pendant vraiment 1 an et demi, 2 ans, qui sont toujours là, hein. Je dis pas qu'ils sont plus du tout là, mais ils ont commencé un peu à se calmer pour un peu assurer leur performance, etc. Et en fait, tu as une autre vague d'acheteurs qui est venue, bah, c'est ça, c'est ces consommateurs de cacao qui sont dans une crainte de risque de pénurie carrément de prix. Et je rajouterai un dernier point, c'est que les producteurs, eux, à l'inverse des consommateurs, eux, ils sont structurellement short sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce que eux, ils vendent du coup le cacao. Bah du coup, eux, ce qu'ils craignent, c'est qu'il y a une baisse des prix, parce que du coup, ils gagnent moins. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se couvrent en vendant des couverts sur les marchés. Or, pareillement, ces mecs-là, qui vendent sur les marchés financiers, quand tu vois, ils se font totalement short squeeze, finalement. Tu parles de squeeze à un moment donné, ces gens-là se font totalement short squeeze. Parce que eux, ils se protégeaient quoi? À peut-être 4-5 000 la tonne. Mais aujourd'hui, le prix est à 10 000 la tonne. Donc, ces gens-là, en fait, ils ont subi des appels de marge. Et ils ont donc dû fermer toutes leurs positions short sur les marchés à terme ou sur le marché des options. Donc en fait, tu as eu beaucoup de gens qui ont commencé à acheter. Et tous les gens qui vendent, en fait, progressivement, en 2022, 2023, 2024, ils ont commencé à se retirer des marchés financiers. Donc en fait, ce qui fait que quasiment sur le cacao aujourd'hui, pour faire un petit parallèle, c'est un peu ce qui s'est passé sur le gaz européen pendant la guerre en Ukraine, quand il est monté à 300 euros le mégawatt-heure. En fait, à un moment donné, il n'y a eu que des gens qui étaient longs. Pas parce que les gens forcément voulaient être longs tous, juste, bah en fait, les gens qui étaient short, ils se barrent, ils ferment leur position, parce que bah, sinon, ils vont se faire short squeeze, ils vont subir des appels de marge, et en fait, ils vont subir des pertes énormes. Donc c'est ça vraiment l'aspect technique qu'il y a eu sur les marchés financiers.
Alors du coup, après je vais lire les commentaires, mais en gros, est-ce que le prix qu'on voit qui est actuel de 10 000 dollars la tonne, est-ce que c'est un prix qui a un lien dans le monde réel ou est-ce que c'est juste les marchés financiers? Est-ce que les vendeurs de cacao se font 3 fois plus d'argent en ce moment en vendant
Bah,
du cacao ou...
comme je disais au début, les vendeurs africains aujourd'hui dans le pays ne profitent pas du tout, mais genre vraiment à 0% de la hausse des prix, parce que comme je disais, c'est le gouvernement qui a fixé des prix à l'exportation. Ce sont des prix qu'on appelle ça des prix réglementés. Donc c'est le gouvernement qui fixe des prix pour que les vendeurs vendent à ce prix-là à l'export. Donc en fait, quand il y a des hausses des prix, Donc, alors quand il y a des baisses des prix, tant mieux, eux, ils ont leur prix fixé, mais quand il y a des hausses des prix comme aujourd'hui, bah, ils en profitent vraiment à 0%. Aujourd'hui, ceux qui sont vraiment fait du fric, c'est les hedge funds, donc les spéculateurs, les trading houses, donc ceux qui font aussi bien du marché physique, enfin, eux qui font les intermédiaires entre producteurs et consommateurs, clairement, ils ont pu acheter clairement à bas prix dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mais et ont vendu ensuite, mais à des prix bah, faramineux, donc ils ont fait des marges énormes à ce niveau-là. C'est vraiment aujourd'hui vraiment les vrais gagnants de cette hausse des prix, c'est les spéculateurs, donc des hedge funds, et les trading houses, donc les intermédiaires de marché sur le marché physique. Mais les producteurs eux-mêmes, bah non, pas du tout.
C'est un cauchemar, le truc.
Moi,
C'est
je peux
encore
te
les
dire,
producteurs qui
bah,
se...
c'est également ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine et le Brent il est monté à. Alors, non, à ce moment-là, du coup, ça avait fait effectivement profité aux producteurs bah, Total et tout, parce que c'est des acteurs privés, il n'y a pas de réglementation des prix sur pour le baril vendu, etc. Mais là, malheureusement, ils sont dans des pays, enfin, les producteurs sont dans des pays après réglementés. Mais sinon, voilà, c'est comme quand le baril de Brent est monté à 120 $ le baril ou le gaz est monté à 30 € le mégawattheure. T'as les spéculateurs, certes, et t'as les producteurs quand le prix n'est pas réglementé qui profitent à fond. Ceux qui se font défoncer, c'est vraiment les consommateurs, en fait, derrière.
Ouais, je vois. Ouais. Alors il y a Prince qui veut dire quelque chose. Juste avant ça, je vais lire un petit commentaire. Il y a CoolSpot qui a dit il y a 4 minutes une bonne info du journal du Coin. Le cacao a dépassé le prix du cuivre. Ok. Alors je sais pas si on peut vraiment faire un lien entre les deux.
On peut pas faire,
À part
on peut
que
pas faire un lien. Je sais que enfin, même sur LinkedIn, j'ai vu des posts. Enfin, c'est l'effet un peu waouh, incroyable. Mais en fait, y a aucun rapport, quoi. Enfin, c'est des matières premières différentes.
Ouais. Corrélation n'est pas égale à causalité. Et aussi, désolé pour la légèreté par rapport au sérieux de la conversation, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Anne Cordy, choqué cacao. Ok. Et aussi quoi? Avec le réchauffement climatique, sera-t-il envisageable de pouvoir cultiver le cacaotier en Europe dans l'avenir? Tu sais quoi? J'ai pensé à ça. Je me suis dit, genre, un jour, ça va être tellement cher que ça sera presque rentable peut-être d'avoir son petit cacao cacaotier, du coup, on dit
Cacaoyer,
dans
c'est
son jardin.
cacaoyer, ouais.
Cacaoyer, ok. Et puis, il y a le prince des ETF. Ça, je voulais en parler plus à la fin, mais effectivement, il dit il y a deux ETC pour vous exposer au cacao. Wisdom Tree Cocoa. Et encore un autre Wisdom Tree Coca. 2 fois daily leveraged, levier 2, donc attention au bêta slippage. Je ne comprends rien, mais peut-être que tu vas pouvoir nous en dire plus, le prince des ETF ou toi, Vincent, si t'es calé là-dessus. En tout cas, salut, Prince, ça va?
Salut Anthony, salut à tous, salut Vincent.
Salut.
Alors, tu voulais réagir à ce qu'on s'est dit dernièrement.
Ouais, enfin, tu m'as demandé de faire un tour, donc je vais passer par là. Et je t'avoue que c'était très intéressant d'entendre Vincent expliquer l'origine de cette hausse soudaine des cours. Personnellement, enfin, je ne suivais pas ça. Hein. En fait, disons que l'info sur le cours du cacao, bon, pour donner un peu de contexte, hein, moi je viens de Côte d'Ivoire, qui est le plus gros producteur de cacao au monde. Je pense qu'ils doivent. Ça doit faire pas loin de 50% de la production. Ils doivent être à 45, entre 45 et 50. La Côte d'Ivoire doit représenter 45 à 50% de la production du cacao au
Ah, c'est pas
mondial.
avec le Ghana, genre?
Non, non, la Côte d'Ivoire seule fait qu'avec le
Ok,
Ghana,
d'accord.
ils doivent atteindre les 60%. Le Ghana,
Ok.
ça va être environ entre 15 et 20% de la production du Ghana. Donc la Côte d'Ivoire est leader de très loin, en fait. Et puis, accessoirement, mon grand-père était producteur de cacao, donc je traînais dans les champs de cacao dans mon enfance. J'ai de beaux souvenirs de ce truc-là. Donc, l'information, enfin, la grosse information que moi j'avais autour du cacao, c'était le fait que les prix augmentaient, mais surtout les prix à la vente dans d'autres pays producteurs comme le Cameroun, était très élevé là où la Côte d'Ivoire le prix stagnait. Donc, te donner une autre idée, en Côte d'Ivoire, et Vincent le faisait remarquer très justement, en Côte d'Ivoire, dans la plupart des pays producteurs, hein, les prix sont fixés par le gouvernement. Au début, en Côte d'Ivoire, c'est au début de chaque campagne. Je pense qu'il y a deux campagnes par an de vente de cacao et les prix sont fixés en début de campagne. Actuellement, le cacao se vend à, je pense, 1000 francs. Aux alentours de 1000 francs le kilo en Côte d'Ivoire. 1000 francs le kilo, ça fait 1000 francs, ça fait 1,5 € je pense, 1,5 € environ le kilo. Là où au Cameroun, le prix est monté jusqu'à 5000 francs le kilo. Donc, il y avait une grogne dans les médias, sur les réseaux en Côte d'Ivoire, du fait que bah, les gens se plaignaient de cette gestion calamiteuse du truc, pour là où dans d'autres pays, le Cameroun, je ne sais plus exactement quelle place ils ont, mais bon, ils produisent, bah, ils ont une production qui est certainement très éloignée de celle de la Côte d'Ivoire. Et on vendait les producteurs vendaient le cacao 5 fois plus cher qu'en Côte d'Ivoire. Donc je sais que, enfin bon, moi c'est ça le truc que j'avais, c'est ça que je suivais jusqu'à ce que j'apprenne en début de semaine, je sais pas, ou en début de semaine là, que le cours du cacao avait augmenté sur les marchés financiers et tout. J'avais aucune idée de ce qui avait entraîné ça. Et j'ai compris des éclairages de Vincent d'où ça vient. Je suis pas très très surpris. Mais effectivement, enfin, et même quand je dis qu'au Cameroun, c'est 5 000 francs le kilo de cacao, hein, ça reste peanut par rapport à ce que les industriels se font comme sous dessus. Hein. Pour te donner une autre idée, moi, il me semble avoir vu que quand tu prends donc toute la valeur ajoutée de l'industrie du chocolat, les producteurs de cacao, ils se retrouvent avec à peine 6 à 7% de cette valeur ajoutée là, dans les prochains, c'est les pays producteurs. Et puis encore, il y en a encore plus. Enfin, c'est la part qui part dans la poche des producteurs, des cultivateurs, est encore beaucoup moins élevée, comme tu dois t'en douter. Donc, il y a une grosse mafia autour de ce truc-là. Il y a beaucoup d'inégalités. Pour parler de la Côte d'Ivoire spécifiquement, le système qui est en place depuis quelques années maintenant, c'est de la vente à terme. Donc en fait, le gouvernement va vendre tous les produits de la campagne avant l'ouverture de la campagne. Je pense qu'ils vendent à terme près de 70 à 80% des quantités prévues. Et donc ce cacao-là est vendu. Et puis ensuite, bah, les producteurs vont récolter. Il me semble que ça a très bien décrit le process. Hein. Donc le cacao, c'est un fruit et c'est les fèves qui, au passage, sont très 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 sucrées. Moi, je me rappelle, on en mangeait beaucoup. C'est sucré les fèves. C'est très sucré et dans la fève, en fait, t'as des, comment on appelle ça, un peu comme des, enfin, j'ai oublié comment dire ça. T'as le noyau, voilà, le noyau de petites fèves là, c'est ça qu'on sèche et puis après on va torréfier machin et puis broyer qui va faire le chocolat. Et un autre truc que je disais qui m'a fait sourire là à propos du dosage du chocolat, le chocolat c'est pas que du cacao hein. À la base, le chocolat c'est de la poudre de cacao, du beurre de cacao et du sucre, beaucoup de sucre. On pense que le sucre doit compter pour entre 25 et 30% de la composition du chocolat, au minimum. Je veux dire, 25-30%, c'est le chocolat. Donc, dans le chocolat, déjà, il y a beaucoup de sucre. Maintenant, après, quand tu vas le transformer, le mettre dans d'autres produits, ils vont rajouter plein d'autres trucs. Donc, le chocolat, à la base,
Franchement,
ce n'est pas que du cacao.
au-dessus de 25%, moi, je commence à tirer la gueule un petit peu. Je trouve que c'est
Mais là, c'est 25% de chocolat. Enfin, bref. On se fait beaucoup enchouver sur ce type-là, de façon générale. Mais bon, ça, c'est les secrets de l'industriel. Mais je montais surtout pour appuyer le fait que, comme pour beaucoup de matières premières, hein, les producteurs qui se font avoir, qui finalement. Ne touche qu'une infime partie de ce que les gens vont payer en bout de chaîne, et puis encore plus dans ce produit particulier-là qui est enfin, presque exclusivement produit dans des pays en développement, et toutes les transformations, donc broyage, transformation, machin, tout, c'est fait aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays européens, et puis au passage, ces industriels-là se taillent la plus grosse part du lion. Voilà. C'était ça ma petite contribution.
Bah écoute, merci. C'est cool. Et est-ce que tu. Non, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire un truc à un moment donné, mais j'ai perdu le fil. Mais est-ce que. Bon, est-ce que t'es un consommateur de chocolat? C'est la question très importante.
Et étrangement, non, pas beaucoup. Je n'en consomme pas beaucoup. Je n'en consommais pas beaucoup quand j'étais en Côte d'Ivoire. Maintenant, encore moins que je suis en France. Moi, je ne suis pas un gros consommateur de chocolat du tout. Mais bon, c'est toujours un petit kiff.
Ouais, mais c'est marrant parce que je me faisais la réflexion il y a quelques années, justement quand j'ai découvert, alors je sais plus le nom de la marque exactement, enfin que je retrouve, je vous la balancerai en commentaire. Mais en gros, quand j'avais découvert cette espèce de chocolat qui venait d'Amérique du Sud, et je trouvais ça complètement fou, et je me disais, donc c'est un peu plus cher que, c'est quand même un petit peu cher, hein, mais ça reste quand même raisonnable, genre 10 $ pour une tablette d'aussi bonne qualité. Je me disais, c'est quand même, on vit dans un monde incroyable, genre il y a des gens à l'autre bout du monde qui prennent les fèves et qui en prennent soin, et puis qui les transforment, qui font toutes sortes d'opérations et tout, puis qui les mettent en forme, et puis ça arrive comme ça chez moi dans une tablette, et puis je peux déguster ce truc-là pour seulement 10 $. C'est un truc de fou, la modernité, c'est incroyable. Bon, et puis maintenant, donc tu sais, je me disais que je trouvais ça fou que ça coûte seulement en fait 10 $, et maintenant que les prix vont probablement peut-être augmenter, on n'en sait rien, je me dis, bah, peut-être j'ai parlé un peu trop vite, parce que j'aurais aimé que ça coûte pas genre 30 $, tu vois, mais je sais pas trop. Du coup, j'ai du mal à ça revient à la question que je posais tout à l'heure à Vincent. J'ai du mal à savoir si toute cette histoire, vu qu'en plus Vincent disait que c'était quand même pas mal, enfin, toutes ces variations de prix, c'était quand même pas mal, quelque chose qui était surtout sur les marchés plus que dans le concret, dans la vie réelle. J'ai du mal à m'imaginer si ça va impacter notre vie future, si le chocolat va devenir un produit de luxe, progressivement, si ça va être de plus en plus cher, si voilà, si acheter du vrai bon chocolat, qui est vraiment du pur cacao, genre à teneur très élevée en cacao, de qualité, etc. Est-ce que ce truc-là va devenir de plus en plus rare? Je ne sais pas. C'est des questions que je me pose. Je sais pas, c'est quoi, c'est votre avis, vos avis là-dessus, Prince ou Vincent?
Ça, comme je te disais au départ, c'est que ça, on ne sait pas en fait à quel point c'est un événement qui va être temporaire ou pas. C'est que effectivement, quand tu fais des analyses, notamment de Rabobank ou de Citigroup, enfin de grandes banques d'investissement ou de rapports d'analyse de trading house, on s'attend effectivement à que pour l'année 2023, enfin cette année-là, du coup 2024, même 2025, voire 2026, les prix restent élevés. Donc peut-être pas à l'heure de 10 000 dollars la tonne, mais peut-être dans une tranche de 6, 7, 8 000 dollars la tonne, donc ce qu'on a vu un peu en janvier-février. Dans un cas où effectivement bah, le choc d'offre reste, et pour l'instant il devrait rester, pourquoi? Parce que comme je l'avais dit au tout début, la grande plantation d'arbres qu'il y a eu c'était dans les années 2000, depuis il y en a eu zéro, sauf que bon bah il faut replanter, il faut réinvestir, enfin non pas plutôt, il faut investir dans tout l'appareil de production dans ces pays-là. Donc quand je dis l'appareil de production, ça c'est les infrastructures, la torréfaction, l'entretien, le stockage, le transport, enfin blablabla. Tout ça, il n'y en a pas. Donc déjà le temps d'initier des investissements, le temps de repérer en amont ou en aval de la chaîne où il faut investir, combien de temps ça va prendre, qui vont être des acteurs, pendant combien de temps, etc. Mais en fait, c'est vraiment un sous-investissement. Il y a eu un tel gros sous-investissement chronique dans cette filière-là pendant près de 20-30 ans que pour enclencher ça déjà, c'est un travail avant que ça se produise vraiment concrètement sur le terrain. Donc, tu as ce fait-là, parce qu'après, c'est le plus gros fait, parce qu'après, les aléas climatiques, bon, c'est pas tous les jours, tout le temps, donc ça va aussi enfin, ça va se calmer, à part s'ils ont vraiment, bah, pour le coup, pas de chance. Les aléas climatiques, l'effet des intempéries, les maladies, enfin, ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui peut se résorber dans le temps, à usage de produits, bah, de toutes les ressources naturelles qui vont faire face, et le peu d'infrastructures qu'ils ont à ce niveau-là pour ça. Mais le gros truc pour calmer la hausse des prix, comme et c'est pour le coup, quelle que soit la matière première en question, quand les prix augmentent trop trop fort, c'est une vraie destruction de la demande. Donc, si tu veux, ce qui va se passer tout simplement, c'est que c'est pas les gens, entre guillemets, quand je dis les gens, c'est nous, le peuple, qui va consommer moins, c'est les industriels qui vont acheter beaucoup moins de cacao. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure, qui vont trouver des alternatives. Et t'en parlais également, du cacao caramel, du citron, enfin ce que tu veux, d'autres saveurs. C'est pas nous, forcément, qui allons consommer moins. Ça va d'abord passer par vraiment l'aval des industriels qui vont juste, bah, se dire c'est trop cher pour nous. Et si il y en a plus sur le marché physique, enfin sur le marché physique là où ça se produit, donc il faut aller plus dans les stocks. Pour aller plus dans les stocks, il faut aller acheter sur les marchés à terme. Sauf que sur les marchés à terme, ça coûte 8 000 dollars la tonne, donc il faut mettre une marge initiale élevée, etc. Enfin, là, ces bouts de capitaux seulement investis sur les marchés financiers pour sécuriser des approvisionnements. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont, bah, si les prix restent aussi élevés, bien évidemment, bah, ils vont tout simplement se barrer progressivement de ce marché-là. Et donc là, bah, effectivement, tu auras une consommation de moindre, vraiment au niveau de la consommation mondiale. Et c'est le facteur qui va vraiment commencer à faire réduire les prix progressivement à des niveaux plus ou moins normaux. Mais ça va rester élevé dans les mois de cette année-là et l'année prochaine, parce que bah, tu as une offre qui est vraiment, bah, très très faible. Et le temps que elle se résorbe, ça va prendre vraiment, facilement, mais 5 ans et plus. Parce que c'est vraiment un manque d'investissement pur et dur qu'il y a dans la filière. C'est comme quand si on n'investit plus dans les usines de regazéfaction ou de liquéfaction, et du coup, bah, on ne peut plus à importer du gaz GNL, tu vois. Bah, si on n'investit pas, il ne va rien se passer, on ne pourra pas en importer, et il va commencer à avoir un déficit d'offres à ce niveau-là. Bah, apparemment, pour le cacao, malheureusement, ça va prendre des années, parce que pendant 20-30 ans, ils n'ont vraiment rien foutu dans la filière, quoi.
Ouais, et j'ai regardé tout à l'heure parce que je regardais un petit peu comment je lisais des articles sur le sujet, et puis je voyais que donc effectivement tu avais Herschel, etc., qui un peu comme tu as dit tout à l'heure, hein, qui se préparait à prendre des mesures pour diminuer pour s'adapter en fait à ces troubles grandissants de l'offre. Et en gros, j'ai vu une compagnie qui fait du chocolat sans cacao. Ils font du chocolat à partir de alors attends, à partir de orge et caroube. Je savais même pas que le caroube ça existait. Je savais même pas je sais pas exactement ce que c'est. Donc je sais pas comment ça fonctionne en fait. Si t'as le même goût que le chocolat avec ces trucs-là, ou ils mettent du goût de synthèse par-dessus. Je sais pas, j'ai rien compris. Mais en tout cas, ils font du chocolat sans cacao. Est-ce
Bah,
que ça va généraliser?
enfin, ouais, le goût du caroube, ça vient du caroubier, et c'est un goût avec caramélisé, sucré, c'est un goût qui se rapproche. Moi, je sais que j'en avais goûté, et ça se rapproche plutôt du chocolat au lait d'ailleurs. Et en plus, c'est sans gluten, donc bon, ça convient un peu tout le monde à ce niveau-là. Mais par contre, là où tu soulignes un point, c'est qu'en fait, on va commencer à voir des produits, donc, et des entreprises peut-être naître, qui feront, bah, en fait, qui se montreront, pardon, en tant qu'alternative au cacao. C'est comme tu dis, t'as ce caroube, t'auras peut-être d'autres types de matières premières, des mélanges, ou peut-être, voilà, des saveurs un peu synthétiques qui vont commencer à se créer par soit les gros industriels, soit même voir des startups dans le monde agroalimentaire qui vont naître et qui vont tout simplement, bah, se dire, bah, ok, bah, vous pouvez plus acheter ça, nous on peut vous créer ça qui va ressembler fortement au chocolat, parce que les gens, la consommation de base, tout le monde aime le chocolat, tout le monde a les goûts. Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, ce que tu veux. Tout le monde veut pas, tout le monde veut avoir ce goût-là. Mais du coup, bah, on va commencer à avoir des solutions alternatives au fil des années si le prix du cacao reste à des niveaux aussi élevés. Ça, c'est
Ouais.
sûr.
Ouais, mais alors du coup, si la demande augmente et tout, donc que la production de cacao baisse, il va falloir qu'ils créent, qu'ils plantent plus de caroubiers. Donc en fait, qu'ils augmentent la production de caroubes. Donc pourquoi ils
Ah oui.
augmentent pas tout simplement la production de cacao? Pourquoi ils font chier? J'ai pas envie de manger du caroubes, moi.
Ah bah,
J'ai envie de
donc
manger du
après,
cacao.
bah, sauf que là, du coup, t'es dans des pays où justement c'est compliqué d'attirer des investissements étrangers, etc. Et t'es dans un pays où le gouvernement lui-même n'investit même pas dans son outil de production. Donc, après la question, c'est est-ce que là, ça va faire prendre conscience que c'est pas durable? C'est une question qui est clairement pas durable. En plus, quand les propres cultivateurs et producteurs locaux se font, enfin, ne profitent pas du tout des prix, donc limite, en fait, eux, ils restent avec des capitaux bas qu'ils ne peuvent pas réinvestir. Du coup, ça continue à baisser, ça continue à faire une production qui est en baisse. Enfin, c'est un vrai cercle vicieux. Donc, à un moment donné, soit ils restent comme ça, mais en fait, du coup, c'est leur industrie entière qui meurt. Et du coup, tu vas avoir des pays. En fait, tu vas tout simplement avoir à la fois des alternatives et des pays qui vont prendre la relève. Mais ça va prendre du temps. Comme je dis, le Brésil, l'Équateur, pourquoi pas l'Argentine, le Mexique également, qui ont des ressources naturelles, notamment des cacaoyers, d'un point de vue agricole. Dans certains pays, c'est pas leur principale ressource naturelle, mais ils vont voir qu'il y a un marché qui s'ouvre si l'Afrique de l'Ouest ne suit plus. Dans l'Asie du Sud-Est, pareillement, ils vont avoir de la concurrence. Donc en fait, après, ça, c'est les lois du marché. T'as un truc qui se perd, t'as d'autres acteurs qui voient une opportunité. Là, du coup, effectivement, par contre, en comparaison à ce que je disais au départ, là, il y a un vrai coût d'opportunité à produire du cacao, parce qu'on s'attend en plus à des prix qui vont rester en hausse pendant un certain temps. Donc, aujourd'hui, les pays qui produisent un peu, voire pas, ou à moindre quantité, vont augmenter leur production, parce que là, il y a vraiment une opportunité à prendre sur les marchés. Et en plus, comme c'est des pays, par exemple le Brésil, qui ne fixe pas ses prix, qui ne réglemente pas les prix, pareil pour l'Argentine, pareil pour l'Équateur, là, ils peuvent profiter pleinement des prix sur les marchés financiers et du coup vendre à des prix très élevés. Donc tu vois, c'est une production qui baisse là-bas, mais c'est d'autres acteurs qui vont rentrer en jeu pour justement, bah, là, saisir un coût d'opportunité énorme. Et donc, peut-être, là, je dis que ça va rester longtemps, peut-être 3 ans, 3-4 ans, mais finalement, ça va durer 2-3 ans, tu vois, personne ne peut prédire l'année exacte. De quand les prix vont se résorber. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vu la situation où on est et vu qu'il y a le cocktail explosif parfait concernant l'offre, ça va prendre du temps.
Ouais.
Et encore, là, franchement, moi je sais que je me pose la question, mais j'ai aussi, enfin, quand on voit aussi l'aspect général à ce niveau-là, on ne sait pas si ça peut dépasser les 10 000 dollars ou pas. Ça peut, là, aujourd'hui, on est vraiment dans une optique de. Bah oui, on est monté à 10 000 dollars, franchement. Là, on est à 83% annuel en 2024, on est à 240% sur un an. Pour eux, ça ne dépasserait pas les 10 000 dollars. Tu vois? Aujourd'hui, on se pose
Ouais.
vraiment cette question-là. Ça va monter à quoi? 15, 20 000? Il faut, tu sais, aujourd'hui, c'est la question de, il faut quel prix pour que vraiment on voit une baisse du broyage, donc de la demande derrière pour la consommation industrielle. On se demande à quel prix il faut aujourd'hui. Et aujourd'hui, personne ne peut le dire. Parce que justement, comme tu disais au tout départ, on n'a jamais vu un tel prix. Donc en fait, on n'a pas d'exemple historique pour se dire, ah oui, pour le pétrole, on sait, 100 dollars, 110 dollars, on commence à avoir une baisse de la demande. Parce qu'on a déjà vécu ça. Le gaz, quand il est monté à 300 euros le mégawatt-heure, on n'avait jamais vécu ça. D'où le fait d'un coup, on a tout arrêté. Pour le cacao, pareillement, on n'a jamais vécu ça. Les acteurs aujourd'hui, les spéculateurs, les producteurs, les consommateurs, etc., n'ont jamais vécu ça.
Et
Donc.
tu vois, c'est marrant parce que on pourrait, ce que tu viens de dire à l'instant, on se l'imagine complètement pour des trucs comme les cryptos, tu vois, les trucs sans fondamentaux. Mais alors pour un marché comme le cacao, on s'imagine pas qu'on puisse se dire ça, tu vois. On se dit, bah, c'est quand même, il y a un truc tangible à la base de ce truc-là. Comment ça se fait que les fondamentaux ont quasiment plus de prise sur le prix sur le cours du truc, en fait? C'est trop étrange.
Alors, répète ce que t'as dit.
Comment?
Répète ce que t'as dit.
Ah, et je disais que ce que tu viens de dire par rapport à, on est dans l'expectative totale par rapport au prix, on ne sait pas si ça va aller plus loin que 10 000 ou si ça va s'arrêter. On n'a aucune idée de ça. Et c'est très étrange parce que c'est le genre de discours qu'on a l'habitude d'entendre pour des cryptos, par exemple, pour des marchés où il n'y a pas de fondamentaux. Mais que pour le coup, c'est très étonnant qu'on soit en train de dire ça pour le cacao, parce que genre on s'attend à ce que ce soit pas le cas. En fait, on s'attend à ce que pour un marché qui soit qui est qui a une qui soit ancré dans le réel à ce point-là, parce que c'est du on parle de quelque chose qui est réel, qui est le cacao, la production de cacao, quelque chose qu'on peut mesurer dans le monde physique, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement bizarre qu'on se dise, bah on sait absolument pas où ça va s'arrêter le prix, on sait pas, ça va, c'est peut-être aller à 20 000, on n'a aucune idée.
C'est clair que dit comme ça, c'est clair en vrai. En vrai, on se l'est dit sur d'autres matières premières dans le passé, mais aujourd'hui, en fait, fondamentalement parlant, il y a du sens à que les prix augmentent, mais après, c'est aussi les conséquences de la financiarisation des matières premières. Hein. C'est la multiplication des acteurs dessus, hein, les trading houses, qui étaient déjà là, mais qui ont commencé à créer des desks papier sur les marchés financiers, les prop firms, les hedge funds. En fait, c'est juste qu'on a décuplé l'apport de liquidité sur les marchés financiers qui font qu'aujourd'hui, les prix peuvent monter, pour quelle que soit la matière première, à des niveaux extravagants. Là, c'est pas non plus genre en mode ils montent pas à 10 000 dollars, ça n'a aucun sens. On sait pourquoi ça monte de base. C'est juste, c'est effectivement accentué parce qu'il y a plus d'acteurs que dans les années 2000. Avant, il n'y avait pas autant d'hedge funds en 2000 qu'en 2024. Aujourd'hui, acheter sur les marchés financiers, c'était pas aussi compliqué qu'en 2024. Aujourd'hui, l'accès au crédit, c'est vraiment le développement des contrats à terme, le développement des marchés des options. Puis au début, les futurs. C'était pas partout. Il n'y avait pas d'options au début sur les matières premières. Ça a commencé à se développer, ça se démocratise, etc. Donc, c'est que fondamentalement, il y a du sens. C'est juste que là, en fait, pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on se dit que toute personne qui, on va dire, qui a des capitaux et du bon sens et qui suit les marchés pourrait rentrer dans le marché, faire augmenter les prix. Et on le voit d'ailleurs depuis que ça a commencé à augmenter. Même des fois, il y a des corrections de peut-être 4-5%. Le lendemain, ça se résorbe. Plus 10, plus 12. En deux semaines, j'ai vu plusieurs journées où il faisait en intraday plus 12%. Là, tu te dis, c'est fondamental. On connaît le fondamental, c'est pricé. Mais pour que ça prenne plus 12% en un jour, c'est que tu as des gros acteurs qui rentrent sur le marché, en fait. Des mecs qui ont soit pris leurs bénéfices et sont re-rentrés, soit des mecs qui n'étaient pas du tout là et qui viennent de rentrer, tu vois.
Et est-ce que c'est possible que le problème vienne des bots? Parce que c'est très important pour moi, parce que si les robots commencent à m'empêcher de manger du chocolat, ça va pas bien se passer, je vais pas être d'accord.
Les bots, ils sont là. Enfin, ce qu'on appelle les hedge funds, d'ailleurs, CTA. CTA, c'est... Putain, j'ai oublié le nom. Enfin, bref, j'ai oublié le nom. Enfin, tapez CTA, tout le monde trouvera en très facilement, mais c'est en gros c'est des algorithmes qui sont basés sur des stratégies de momentum ou trend following. Donc en fait c'est pas du tout c'est pas des trucs très sophistiqués, hein, mais qui aujourd'hui sur les marchés même globaux, donc même equities etc, deviennent un vrai apporteur de liquidité. C'est que eux, dès qu'il y a des tendances qui commencent à se créer comme le sur le chaos, c'est clair et net qu'il y a un apport d'algorithmes qui jouent des stratégies de momentum, donc qui, boum, prend la hausse, ou de trend following, qui juste suit les tendances haussières comme aujourd'hui, et qui, du coup, participe effectivement à cette hausse. Mais aujourd'hui, tout le monde participe à la hausse. Hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas un mec qui est plus coupable qu'un autre. Hein. Des hedge funds discrétionnaires, il y en a. Des hedge funds quant, il y en a. Des desks papier dans des trading houses, il y en a. Les consommateurs industriels qui se jettent sur les marchés financiers pour sécuriser leurs approvisionnements, pareil, ça alimente la hausse. Les producteurs qui se dégagent de leur short sur les contrats à terme, ça alimente la hausse parce que du coup, ils réduisent le nombre de shorts sur les marchés. Enfin, tout le monde soit sort des marchés parce qu'ils se font défoncer, soit rentre dans les marchés parce qu'il y a une opportunité. C'est comme ça.
Ouais, je vois. J'ai deux questions, j'ai deux autres questions à poser qui sont vraiment différentes l'une de l'autre. Mais avant ça, je vais regarder les commentaires parce qu'en fait, il y a eu deux commentaires que je voulais lire. Ah oui, alors il y a Météo et Info. Ah ça, c'est un compte, c'est bon ça. Météo et Info qui dit « Pourquoi ne fait-on pas de cacao dans les Antilles ?»
Oh là, je n'ai aucune idée. Ouais, je suis pas un géologue.
Ouais. Et puis sinon, il y a Métaphilibert qui dit, avec le réchauffement climatique, serait-il envisageable de pouvoir cultiver le... Ah bah non, moi, j'ai déjà lu ça. Je suis con. Oui, bon, écoute, ouais. Alors c'est ça, oui, j'ai deux questions. Je vais dire la première. C'est est-ce que tu penses que c'est possible que ce qu'on est en train de vivre avec le cacao en ce moment, est-ce que c'est un d'après toi c'est un épiphénomène, c'est genre oh il y a ça qui se passe avec le cacao parce que voilà il y a un contexte très particulier du cacao et voilà c'est des choses qui arrivent, ou est-ce que tu penses que c'est possible que ce soit le témoignage d'un contexte plus global qui est bah je sais pas l'augmentation de la demande en général dans le monde pour toutes les tout ce qui est tout en fait tout j'allais dire les matières premières mais en fait tout. Je regardais il y a pas si longtemps un reportage sur Ikea. C'est con mais genre bah, qui utilisent du bois comme pour faire leurs meubles et qui s'étendent de plus en plus, qui ravagent des forêts et bah on s'aperçoit petit à petit que bah en fait les forêts elles sont pas illimitées. Ils avaient dit qu'ils allaient replanter des arbres pour combler un peu, pour faire en sorte à ce que ce soit sustainable, mais en fait ça ne l'est pas. Ils replantent jamais évidemment assez d'arbres assez vite par rapport à ce que eux ils consomment. Voilà, il y a un vrai problème par rapport à ça. Donc il y a plein de domaines. On sent que c'est un petit peu comme ça. On parlait pendant très longtemps le pétrole, le fameux pic pétrolier, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train, c'est pas un peu un témoin de ce qui est en train de se passer, de genre on découvre qu'en fait finalement tout n'est pas illimité, genre que on a un train de vie, on s'est habitué à tout avoir pas cher, facilement, etc. Et qu'en fait là il y a des petites pics, des petits machins qui se passent qui nous montrent que en fait non, c'est pas la fête.
Non, je dirais pas ça, c'est pas une tendance globale. Là, pour le coup, c'est un vrai cas particulier parce que bah, tu prends d'autres matières premières, hein, le blé aujourd'hui, le soja, la viande bovine, le café, le sucre. Il se passe particulièrement rien sur les marchés. D'ailleurs, aujourd'hui, il se passe vraiment rien sur ces marchés-là, quoi. Genre, non, si, c'est le maïs, il est en forte baisse depuis décembre 2023 parce qu'on annonce des récoltes records. Dans le sud des États-Unis, également au Brésil, par exemple pour le blé, des récoltes records en Russie qui vont combler un peu le déficit américain d'ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment. Enfin, c'est le marché des matières premières. Hein. C'est parce qu'il y a un marché physique qu'on peut voir des distorsions de prix assez importantes, importantes sur les marchés financiers. C'est pas parce qu'il y a une tendance un jour globale. La vraie tendance, là où je pourrais être d'accord avec toi, si on fait cette émission-là dans les années 2000. Dans les années 2000 à 2010, c'est vraiment l'ouverture de la Chine d'un point de vue d'ouverture des marchés chinois, la Chine qui s'industrialise, les gens qui consomment. Et c'est vraiment là que la Chine en fait, a explosé en termes d'importation de matières premières, de gaz naturel, de pétrole, de charbon, de blé, de tout, de tous les côtés. Enfin, c'est là que oui, effectivement. Tu as eu une tendance globale, pardon, tendance globale de hausse des matières premières parce que tu as eu vraiment un trou noir, la Chine qui aspirait tout, qui aspirait tout. Mais ça qui était vraiment dû à un effet structurel du développement économique d'un pays de 1,4 milliard d'habitants. Enfin, c'était pas 1,4 avant, mais bref, on se comprend.
Ouais.
Et avec un gouvernement qui a investi massivement, qui a développé des entreprises, qui a développé des ports, des routes, des chemins de fer, des pipelines, des gazéoducs, du coup qui s'est industrialisé massivement en termes d'infrastructure parce que le développement de la Chine c'était vraiment basé sur ça à l'époque-là. Là, oui, tu as eu un effet conjoncturel qui a amené une hausse globale des matières premières. Aujourd'hui, non. Toutes les économies sont quand même plus ou moins développées. Tu as encore les pays émergents, etc. Mais il n'y aura pas une deuxième Chine. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas annoncé. Il faudrait vraiment un autre pays limite qui naît. Il y a pas, t'auras pas un deuxième trou noir d'un pays qui va tout attirer. T'as, voilà, tu as effectivement l'Inde. L'Inde va se développer. L'Inde va importer du charbon, du blé. Mais aujourd'hui, l'Inde, c'est quoi? C'est aussi également l'un des producteurs, plus gros producteurs de riz au monde. C'est le premier. C'est le deuxième plus gros producteur de sucre au monde. L'Inde, ça a beaucoup de charbon dans son sol. Donc, elle va importer du pétrole, du gaz. Un peu de blé, un peu de ci, mais aujourd'hui les économies sont tellement interconnectées de tous les côtés. Tu peux te sécuriser tes matières premières par des options, par des contrats à terme, par des contrats forward, par des swaps, par tellement d'outils aujourd'hui, que ce soit des outils, on va dire, industriels ou financiers pour avoir tes approvisionnements, que C'est fini cette époque-là où bah, en fait, tu avais peu d'outils et tu avais un mec qui attirait tout, et du coup, bah, en fait, on ne pouvait que lui vendre et ça, tout le monde fermait sa gueule. Donc, une deuxième
Ouais.
chose, il n'y aura pas. Donc, il n'y aura plus cet effet de tendance globale. Oh là là, prix qui monte à tout. Ce qu'il y a eu entre la Chine et là, c'est effectivement le Covid. Effectivement, un monde où tout a été fermé et une réouverture, c'est ça qui va expliquer bah, hausse du prix du gaz, du blé, du pétrole à ce moment-là, du charbon, du jus d'orange également d'ailleurs. Je dis ça comme ça parce que j'avais suivi ça. Là oui, monde qui s'arrête, monde qui s'ouvre. Mais voilà, pour des trucs qui est des tendances globales, c'est parce que derrière, en fait, tout le monde arrête de consommer, quoi. Ou tout le monde arrête de produire, quel que soit le sens que tu prends. Mais là, pour le cacao, c'est un cocktail, en fait, qui est venu en même temps, enfin, même pas au mauvais moment, mais juste tout est venu au même temps, et ça a fait ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi.
Ok, je vois. Merci pour cette réponse. J'en profite pour dire que parmi tous ceux qui sont là, si vous avez des questions à poser, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas. C'est un petit peu de la scol. Je vous dis ça pas parce qu'on est pris par le temps spécifiquement, mais c'est parce que moi j'ai pas un milliard de d'interrogations qui me restent à l'esprit. On a fait quand même un bon gros tour du sujet. J'ai une question quand même plus côté investissement. C'est d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les mecs qui veulent jouer ce coup-là? Bon, après, je connais un petit peu ta réponse puisque tu as déjà un peu répondu, tu as déjà dit on sait pas en fait. Donc c'est sûr que tu peux pas dire allez-y go là-dessus. Mais est-ce
Ah
que tu
oui,
penses
bah
que c'est une bonne idée de short,
pour te
par
donner
exemple?
des conseils d'investissement, bah je sais qu'il y avait Le Prince qui avait pas de deux ETF qui sont effectivement les deux ETF les plus utilisés sur le cacao actuellement. Après, on peut sur des contrats à terme, sur des options via des brokers. Bon, ça, c'est les outils. Hein, ça, c'est les outils. Après, ouais, je ne vais pas donner du conseil en investissement à ce niveau-là, tout simplement parce que je ne sais pas. Enfin, moi, je sais que personnellement, par exemple, moi, j'avais été long sur le cacao. De l'or quand il était vers les 3 500 dollars et j'ai vendu d'ailleurs à 8 000. Bon, bah,
Oh.
j'ai loupé 2 000 points de merde. Mais en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, ça c'est vraiment lié à une activité que je fais en parallèle de mes études, une vraie activité de conseil en investissement que je fais. Et d'ailleurs, je lui ai expliqué aujourd'hui, d'ailleurs, à ce client-là, que c'est devenu un vrai. Enfin, l'environnement du cacao aujourd'hui est vraiment, vraiment compliqué. C'est très dur à le savoir. Et c'est pas que personne, parce que même je lis sur LinkedIn des gens qui sont vraiment dans le monde des commodities agricoles, des traders papier ou physiques, qui font leurs propres analyses ou qui donnent leur avis sur le cacao actuellement. Même on peut lire des articles sur le Bloomberg ou dans le Financial Times, où ils disent vraiment, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être et c'est très compliqué à suivre aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs que beaucoup, beaucoup d'acteurs, depuis le début de 2024, ont commencé à sortir des marchés. Parce que là, on atteint des niveaux historiques. Donc, peu d'acteurs, en fait, qu'aujourd'hui, les acteurs d'aujourd'hui n'ont jamais vécu. Ils n'ont pas d'antécédent dans ça. Ils n'ont pas eu d'expérience de hausse des prix à ce niveau-là. Hausse des prix dans le pétrole, dans le gaz, ok, c'est vu, c'est connu, il y a des milliers d'exemples. Dans le cacao, on ne sait pas. Est-ce que 10 000 dollars, c'est suffisant? C'est quand même 10 000 dollars la tonne. Est-ce que, bah, finalement, peut-être qu'il faut monter à quoi? 11 000, 15 000? Est-ce que le prix va d'un coup corriger et perdre 20%? Est-ce qu'il va augmenter de 50%? Quand on suit les fondamentaux, effectivement, on se dit. Bon, bah, ça devrait augmenter, sauf qu'à un moment donné, les fondamentaux, on les connaît. C'est ça le principe de pricer dans le monde des marchés, c'est que l'information est connue de tous. Donc, à un moment donné, il n'y a plus du coup le même potentiel de hausse qu'il y a eu, par exemple, quand on était en juillet. Là, à part effectivement de nouvelles, mauvaises nouvelles pour par exemple, l'exportation vers les ports, les stocks, la production. Des aléas climatiques qui pourraient engranger encore plus de maladies, d'intempéries. Effectivement, là, c'est de nouvelles informations qui aggravent le choc de l'offre. Mais aujourd'hui, en termes d'offre, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Les chiffres, ils sont là. On a les images sur le terrain physique. On a le niveau des exportations, etc. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça augmente? Est-ce qu'il y a encore un vrai potentiel d'augmentation? Personne ne sait. D'un côté, pourquoi ça va pas baisser? Parce que bah, aujourd'hui, les gens consomment. Et ça, les fondamentaux en termes d'offre et de demande, ils sont également clairs et nets. Donc on sait que les prix vont rester élevés, mais on sait aussi qu'il n'y a pas le même potentiel de croissance, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une fois, de nouvelles mauvaises nouvelles. Donc peut-être que là, moi, de mon point de vue, soit les prix spike encore de manière très élevée parce que effectivement il y a peu, de moins en moins de volume sur les marchés et donc on peut s'attendre à des pics un peu de volatilité des fois sur certaines séances intraday parce que tu as des spéculateurs qui reviennent ou tu as la continuité des acheteurs physiques qui veulent sécuriser leurs approvisionnements plus les gens qui sortent de leur short donc comme je l'ai expliqué ou alors on va être plus dans un environnement de je sais pas comment on dit ça en français j'ai mon anglais en français ben, un peu en yo-yo. Donc les prix vont peut-être monter au-dessus des 10 000, mais peut-être pas forcément les 11 000, mais vont rester dans une, voilà, une range. Et voilà, dans une range, peut-être, voilà, je sais pas, je dis au hasard, 9 000, 10 500 $. Peut-être. C'est possible que ce soit là, on arrive à un moment donné où les gens, en fait, les spéculateurs, d'un point de vue psychologique, ne savent pas trop ce qui va se passer, parce que bah, on ne sait littéralement pas comment se marche ce marché-là à ces niveaux-là. Et peut-être que du coup, on va juste les prix vont se contrebalancer pendant un certain temps, histoire bah, voilà, de voir s'il y a des nouvelles news sur les prochaines récoltes, sur la température dans les pays, s'il y aura des vagues de froid, des vagues de chaud, comment le développement des maladies dans les cacaoyers, le suivi de la consommation mondiale, notamment après Pâques, parce qu'on sait que Pâques c'est un gros pic, mais est-ce qu'après ça va suivre ou baisser? Ça va dépendre de toutes les news qui vont suivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ne savent vraiment pas qu'est-ce. Enfin, ils trouvent, du moins, c'est ce qui est dit, c'est que c'est très complexe à suivre.
Ouais. J'ai envie de te demander si c'est pas indiscret la narrative que tu as suivie pour ouvrir un long à 3 000 et le fermer à 8 000, sachant que 8 000 c'est deux fois le top historique de 1977, genre.
Ouais, c'est ça. Bah moi, j'ai mon narrative, enfin, moi, je sais que je le suivais depuis 2023. Hein, c'est juste qu'avant, je n'avais pas cette activité-là. C'est juste que je l'ai commencé le 1er septembre 2023. Et bah, c'était l'un des premières personnes que j'avais conseillé, parce que bah, c'est en fait tout ce que j'ai écrit dans l'émission aujourd'hui, hein, littéralement. J'avais peut-être plus de chiffres, là, j'ai peut-être pas tout dit, parce que bon, il y en a plein. Les ratios de stock, etc. Mais c'était vraiment bah, la narrative que je dis aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment suivi
Ouais.
mal, le développement de la maladie, la réglementation des prix. Les stocks de bah, historiques et comparés à l'année dernière, la comparaison des saisons, bah, en fait ce que tout le monde fait, hein, c'est dire c'est même
Ouais.
un truc classique, hein, il suit bah, vraiment l'analyse fondamentale sur le marché physique. Je suivais également bah, voilà l'open interest, le positionnement des spéculateurs, le sentiment de marché également. Donc là on est un peu dans la métadonnée à ce niveau-là, les exportations vers les ports. L'achat par la continuité des achats par les industriels, enfin comment les différents acteurs sur les marchés, donc sur les spéculateurs, les producteurs, les consommateurs allaient sur les marchés, est-ce qu'ils étaient plus longs ou short? Donc là c'est vraiment le positionnement même général des acteurs qui ont fait que moi j'ai rentré dans cette position-là. Et moi j'ai de toute façon quand tu rentres dans un trade après c'est tu le suis de bah, voilà plus ou moins tous les jours et bah tant que j'ai envie de dire la narrative suit et solide et consolidé au fur et à mesure des nouvelles qui tombent. Enfin, après, c'est vraiment un suivi quotidien. Sur pas de la position. Après, moi, j'avoue que je suis sorti. Enfin, moi, j'ai conseillé, je suis pas sorti personnellement, mais j'ai conseillé de sortir. Parce que pour moi, justement, comme je pense que beaucoup de spéculateurs devraient en penser, bon, peut-être qu'en mode, c'est assez, tu vois. Alors là, c'est vraiment de la pure psychologie. On se dit, bon, bah, quoi, ça va monter quoi à 10, 15, 20 000. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste du cacao. Dans mes études, dans mes expériences, je me dis 8 000 $ la tonne. On commençait déjà, Coco, on commençait déjà à voir à 8 000, 7 000 $ la tonne une baisse des broyages, comme j'avais dit, en Asie aux États-Unis. C'était moins le cas en Europe. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une continuité de ça ou pas? On sort de la position. Bon, j'ai eu tort, parce que du coup, il est monté à 10 000. La question,
Ouais, mais ça
voilà.
fait 10 ans ce que tu dis quand même, ouais.
Ça, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas si ça va monter à 15, 20 000. Enfin, personne n'en a littéralement aucune idée aujourd'hui.
Mais c'est quand même ce que tu viens de dire, c'est quand même ça rend le truc assez clair. Il y a pas c'est pas vraiment au feeling où genre t'as fait oh j'avais oublié que j'avais une position ouverte, tiens, je vais la couper. Non, c'est vraiment tu suivais le truc quand même et mon
Ouais,
Dieu,
c'est ça.
t'as vu des marqueurs, enfin des signaux et tu t'es dit ok c'est peut-être maintenant le moment et en fait c'est juste que il s'avérait que qu'en fait non ça continue à monter mais c'était quand même bien pensé en fait tu vois.
Oui,
C'était quand même.
en termes de quantité de gains, c'était intéressant, mais après, bah après, voilà, après j'ai commencé à voir que justement les spéculateurs se retirent des marchés, que l'open interest baisse, du coup on voit des chiffres intraday de plus 6, plus 7. Ça commence un peu à faire peur. Ça peut faire plus 6, plus 7, mais ça peut aussi faire moins 6, moins 7. On se dit ça aussi. parce que ça ne va pas que dans le ciel, les marchés financiers. Et bon, bah voilà, mais aujourd'hui, vraiment, quand je lis beaucoup d'analyses vraiment de traders agricoles, surtout, qui aujourd'hui, bah, tout le monde parle de ça, hein, c'est vraiment le produit aussi, même globalement sur les marchés financiers. On parle vraiment d'environnement très challengeant, très complexe, très dur à suivre. Et donc, beaucoup de gens préfèrent justement se mettre de côté et suivre plutôt que de rentrer et justement prendre le risque de potentiellement perdre de l'argent.
Ouais.
Je dirais ça sur ce mot de conclusion, on
Ok.
va dire.
Ouais, bah c'est une très belle conclusion. Honnêtement, cette émission était super intéressante, non seulement parce que le sujet est cool, mais en plus parce qu'on a vraiment fait le tour. On a fait un petit peu d'histoire, on a fait un petit peu d'analyse, de la mécanique, des choses. On n'a pas vraiment fait, ouais, un petit peu de politique, l'économie. On a parlé des marchés, d'investissement. On a vraiment quand même fait un truc hyper riche. On a fait tout le spectre un peu, tu vois, de l'analyse. C'est vraiment cool. Super émission. Et pour ceux que ça intéresse, bah, on fait de la géopolitique, géoéconomie tous les jeudis avec Vincent. Et ceux qui ont trouvé que ce que disait Vincent était intéressant, bah, n'hésitez pas à le follow, hein. Et puis aussi, t'as une newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa newsletter. Et puis, quoi d'autre d'ailleurs, en fait, newsletter, compte
Bah,
Twitter.
c'est ça, ouais, j'ai mon blog sur Twitter, j'ai ma newsletter. Bah, après, moi, j'ai deux autres trucs, mais bon, enfin, après, j'ai une revue de presse, mais je la publie sur LinkedIn. Mais bon, là, du coup, c'est. Les gens qui sont curieux, en vrai, ils peuvent trouver mon LinkedIn assez rapidement. Effectivement, je fais une revue de presse toutes les 2 semaines de macroéconomie, géopolitique et matières premières avec 2 camarades. Mais bon, ça, c'est pour les gens qui sont vraiment curieux de savoir qui je suis. Mais sinon, vraiment, essentiel. Enfin, en termes d'écriture, c'est là où je fais, c'est vraiment ouais, ma newsletter avec un article par jour du lundi au vendredi et bah, mon blog que j'ai sur Twitter.
Ok. Ben, les gens, allez-y, go, go, go. C'est toujours excellent, franchement, le jeudi, c'est... Voilà, parfait. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Dimanche, on fait une émission un petit peu différente d'habitude parce que normalement le dimanche c'est vraiment Bitcoin, souveraineté individuelle, etc. Bon, là, ce sera un petit peu encore souveraineté individuelle aussi, hein, mais ce sera plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission comme ça. Ce sera sur le bien-être physique et mental. Donc, on va inviter quelqu'un, bah, en fait, Lane, pour ceux qui connaissent. Ce mec est légèrement perché, mais il a des choses à dire. Et je suis vraiment très content de le recevoir. Et on va parler un peu bah, comment s'entretenir physiquement et comment s'entretenir voilà, psychologiquement, mentalement, pour faire des journées en pleine forme et prendre des bonnes décisions de vie et d'investissement et tout ce que vous voulez. Prendre des bonnes décisions en général. Bref, être bien. Et en gros, voilà. Donc ça sera dimanche et puis et c'est ça. Ah oui, et pour jeudi prochain, donc voilà, donc pour l'émission qu'on fait avec Vincent, si vous avez des idées, si vous voulez soumettre des sujets, n'hésitez pas à envoyez-moi un PM ou envoyez un PM à Vincent, peu importe, ou écrivez dans les commentaires, juste manifestez-vous et puis si vous soumettez un sujet qui a l'air cool, comme voilà, un truc qui mêle idéalement un peu actualité et donc géopolitique, géoéconomie, bah c'est parfait, on va probablement bosser dessus. Bon, donc je sais pas ce que tu en penses,
Ok, oui, très bien,
Vincent.
carrément chaud.
Ouais. Et bah merci encore pour cette émission, et puis merci à vous d'être venus, merci pour les interventions et tout, pour les commentaires, et puis on se dit rendez-vous bah demain pour ceux qui viennent, non pardon, pardon, dimanche. Là on part en week-end, et donc prochaine émission dimanche, 22 h, et on se quitte sans musique, parce que j'ai pas mon matos avec moi, mais ça va revenir bientôt, donc bonne soirée à vous, salut Vincent, et à la prochaine.
Salut, à la prochaine.